Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Micro Rebelle Hebdo, le magazine de Micro Rebelle, la web radio du bassin minier. Magazine des luttes sociales, magazine des alternatives économiques, sociales, écologiques dans le bassin minier et au-delà. Alors, Micro Rebelle Hebdo est diffusé en direct de nos studios de Liévin chaque vendredi à 18h jusqu'à 19h, et rediffusé par nos amis de la FRANF, la Fédération des radios associatives du nord de la France. C'est notamment le cas de Radio PFM 99.9 à Arras, qui nous diffuse chaque vendredi de 20h à 21h, chaque samedi à 7h30 et tous les dimanches à 14h. Également rediffusion par Radio Plus 104.3 à Douvrin, diffusion chaque mardi à midi. Alors, pour ce Micro Rebelle Hebdo, comme chaque vendredi, l'agenda, agenda social et culturel, actualité et revue de presse, musique libre et puis des reportages. On aura aujourd'hui la chronique à deux coups de Olivier. Une fois c'est un coup de cœur, une fois c'est un coup de gueule. Aujourd'hui, ce sera un coup de cœur. Et puis, un reportage que nous vous proposerons en fin d'émission. Un reportage concernant la grève des pompiers. Vous savez qu'on parle beaucoup de mouvements sociaux en ce moment. Eh bien, on a tenu à Micro Rebelle à tendre notre micro vers des pompiers en grève. Alors, sans attendre, on va tout de suite commencer par notre agenda social et culturel. Alors pour cet agenda, on va commencer par parler de médias libres, indépendants, alternatifs, à l'occasion d'une belle journée qui se tient à Arras, une journée intitulée « Médias libres, quelle info ?» C'est le samedi 23 novembre, de 13h30 à 20h, et c'est une journée organisée par la FRANF, la Fédération des radios associatives du nord de la France, une journée à laquelle Micro Rebelle participe, dans laquelle Micro Rebelle est investi. Alors, au programme de cette journée, donc on attend le public, c'est une journée qui est complètement ouverte et libre, on attend le public à partir de 13h30, et la journée va démarrer à 14h par une intervention de Denis Perret de l'association Acrimed, Action Critique Média, une intervention sur le thème « Les médias dominants, les mouvements sociaux » et l'info. Donc c'est typiquement une intervention dans laquelle nous, Micro Rebelles, on va être très très attentifs. C'est une thématique qui nous concerne et qui nous interpelle dans notre activité radiophonique. À 14h30 va se tenir un premier atelier « Comment traitons-nous l'information concernant les mouvements sociaux ?» de 14h30 à 16h. À 16h30, on aura deux ateliers qui vont se tenir en parallèle. Nos pratiques d'éducation aux médias et à l'information, ce qu'on appelle l'EMI, éducation aux médias et à l'information. Donc typiquement, les exemples d'ateliers que peut mener une radio telle Micro Rebelle, une pratique d'éducation populaire, une pratique éducative. Donc ça c'est le premier atelier de 16h30 à 18h, et en parallèle, un troisième atelier sur l'information et les réseaux sociaux. La soirée se terminera à partir de 18h30, par un apéro et un concert acoustique avec le groupe Existence Scène et une musique jusqu'en fin de soirée. Et dès 18h30, il y aura une émission de synthèse, une émission de radio de synthèse qui donnera la parole à l'ensemble des intervenants de la journée. Je vous précise que Micro Rebelle diffuse plutôt en direct cette émission de radio samedi 23 novembre à 18h30. Une bonne occasion de faire le point de ce qui s'est passé durant cette journée. Donc je vous en rappelle la thématique générale, médias libres, indépendants, alternatifs, quelle information ? Ça se passe à l'hôtel de Guines, place du Théâtre, à Arras. Toujours le samedi 23 novembre, un festival du court-métrage. C'est à l'initiative de l'association La Sauce 62, et ça se déroule au centre culturel de la ferme Dupuis à Mazingarbe. de 14h à 20h. Je vous précise que Micro Rebelle sera présent également ce jour-là. C'est le même jour, donc on divise nos équipes en deux. Et nous aurons une équipe qui sera notamment composée de Aurélie et de Jonathan qui vous attend sur place pour assurer un reportage sur site avec des interviews, des réalisatrices et réalisateurs, des spectatrices et spectateurs. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Ferme du Piche à Mazingarbe, samedi 23 novembre, un festival du court-métrage à l'initiative de La Sauce 62. Le lundi 25 novembre, faut-il arrêter de manger les animaux ? C'est un ciné-débat avec un film du même titre, faut-il arrêter de manger les animaux ? Ça se passe à Saint-Nicolas-les-Arras et c'est dans le cadre du Festival Alimentaire 2019 au Centre Social Chanteclerc à 20h. C'est une initiative de l'association Initiative Paysanne, de l'association Alter Circuit et de l'association Artisans du Monde. La projection du film sera suivie d'un échange débat animé par Paul Masson. Le mardi 26 novembre, Demandons l'impossible. C'est du théâtre dans le cadre du cycle Les Engagés. Une mère de famille, en mai 68, quitte sa cuisine équipée pour voir et comprendre ce que vivent ses enfants sur les barricades, son mari cheminot devenu contremaître et ses beaux-frères, un patron de bistrot gaulliste et l'autre prêtre ouvrier. C'est donc à 20h à l'espace culturel Grosmy de Bruay-la-Bussière. Le tarif est de 3, 5 ou 8 euros et on peut réserver au 03 59 41 34 00. Demandons l'impossible, mardi 26 à Bruay-la-Bussière. Toujours le mardi 26, Je te veux impeccable. C'est encore une fois du théâtre et c'est dans le cadre du projet Égalité Hommes-Femmes. Un spectacle à partir de 15 ans à 20h au Centre Arc-en-Ciel, place Gambetta à Liévin. C'est gratuit, on peut réserver au 03 21 44 85 10. Donc on a pas mal de spectacle culturel, spectacle théâtre sur la thématique des femmes, hein, ça s'explique puisqu'en ce moment c'est le cycle violences faites aux femmes, hein, c'est la thématique revendiquée actuellement. Le mardi 27 novembre, les migrations. C'est une journée de sensibilisation dans le cadre du festival Migrants Scène. À l'initiative de la CIMAD qui fête ses 80 ans, et c'est en partenariat avec le café L'Autre Estaminet, 5 places Jean Jaurès à Lens. Donc au programme de cette journée, un jeu coopératif sur les parcours migratoires, de 14h à 18h, un débat « Les migrants sont là, parlons-en », c'est à 19h, et une expo photo du mardi 26 au samedi 30, une expo intitulée « Welcome to Vietnam City ». Vous savez que le bassin minier a accueilli des migrants vietnamiens, donc c'est une expo sur cette thématique qui relate un petit peu la vie de ces migrants dans le bassin minier en transit vers la Grande-Bretagne. Le vendredi 29 novembre, Allô les riches, ici la terre. C'est un spectacle qui présente les portraits de 15 habitants de Salomine, Avion, Méricourt et Mazingarbe. Ça se passe à 19h à l'espace culturel La Gare de Méricourt. L'entrée est gratuite. On peut réserver au 03 91 83 14 85. Toujours le vendredi 29 novembre, Pride. C'est du cinéma dans le cadre du cycle Les Engagés. Un film basé sur une histoire vraie. Un film qui dépeint un groupe d'activistes gays et lesbiens à Londres qui ont réuni des fonds pour aider les familles touchées par la grève des mineurs britanniques de 1984-1985 au début de ce qui allait devenir la campagne de Lesbians and Gays Support the Minors, LGCSM. Le syndicat national des mineurs était réticent à accepter le soutien du groupe en raison du souci du syndicat pour ses relations publiques d'être ouvertement associé à un groupe gay. De sorte que les militants londoniens ont plutôt décidé d'apporter leurs dons directement à Unwin, un petit village minier de la Dulaïs Valley du pays de Galles, résultant en une alliance entre les deux communautés. L'alliance était inédite, mais fut un succès. C'est donc à 20h au cinéma Les Étoiles de Bruay-la-Buissière. Le tarif unique à 5€. Et après la projection, si vous le souhaitez, une soirée festive. Jusqu'au vendredi 29 novembre, 14-18, combat de femmes. Les femmes durant la guerre 14-18. C'est une exposition à la médiathèque Chanteclerc de Saint-Nicolas-les-Arras en partenariat avec les archives départementales du Pas-de-Calais. C'est pour tout public et l'entrée est gratuite. Jusqu'au 29 novembre, Fille de mai, voix de femme de 1968 au féminisme. C'est à Bruay-la-Buissière, un film documentaire au cinéma Les Étoiles. Le samedi 30 novembre, Assemblée ouverte Micro-Rebelle, notre association, chaque dernier samedi du mois, propose à ses adhérents et adhérentes, ainsi qu'à ses auditrices et auditeurs, de se retrouver dans le cadre d'ateliers d'échange autour des émissions radiophoniques mises en œuvre par Micro-Rebelle. C'est donc de 10h à 12h30 au LAG, le lieu autogéré du bassin minier, 23 avenue Jean Jaurès, à Liévin. Samedi 30 novembre donc. Toujours le samedi 30 novembre, marche pour le climat. Départ à 14h30, place de la gare à Arras. Enfin, pour terminer cet agenda, tout en haut du jazz, jusqu'au 12 décembre. C'est un festival itinérant de jazz dans le Pas-de-Calais. Jusqu'au 12 décembre, le Pas-de-Calais devient une terre de jazz avec plus de 10 concerts organisés dans 8 communes. Aix-Noulette, Béthune, Beuvry, Givenchy-en-Goële, Grenay, Lens, Marne-le-Mine et Mazingarbe. Tout en haut du jazz vous propose un voyage de 4 semaines dans les multiples facettes de cette musique métissée. Laissez-vous transporter tout en haut du jazz. Info auprès de l'association Droit de Cité au 03 21 49 21 21. Par exemple, dimanche 24 novembre, Jazz Playground au prévôté de Gore à Beuvry. Mercredi 27 novembre, Christian Vander au Colisée de Lens. Jeudi 28 novembre, Réveiller les vivants, c'est un poème jazz par Sampiro Bonafé Texier à l'espace Ronnie Cooter de Grenay. Vendredi 28 novembre, Mathieu Boré à la salle Gabriel Pignon de Marle-les-Mines. Et samedi 30 novembre, Marcin Mazeki et Jerzy Rojevic au Louvre-Lens. Mais voilà, cet agenda social et culturel, particulièrement fourni, se termine. On va maintenant passer un petit peu de temps ensemble concernant l'actualité sociale et politique dans le bassin minier et au-delà, actualité sociale, culturelle, économique. Alors, elle est bien chargée, hein, partout en France et dans le monde. Et dans le monde, justement, les causes peuvent en être multiples. Ce peut être pour des questions de cherté de la vie, pour des questions de corruption, ou encore sur des aspects de vie démocratique. Mais le fait est là. Cette semaine, le magazine Le 1 titre « Pourquoi les peuples se soulèvent ?» et ce magazine fait un tour d'horizon. Aux États-Unis, 50 000 salariés de General Motors font grève durant 38 jours et font céder la direction de l'entreprise. En Équateur, avec des revendications qui vont du prix des carburants aux préoccupations sociales indigènes, les arrêts de travail se multiplient ainsi que les manifestations. Après 12 jours, 12 morts, 1500 blessés, 1300 arrestations, le président Lénine Moreno cède. En Bolivie, après l'élection polémique d'Evo Morales, qui ne voulait pas lâcher son siège, la droite et l'extrême droite, ainsi que l'église évangéliste, montent un coup d'État, les affrontements se multiplient. En Argentine, 300 000 femmes manifestent pour le droit à l'avortement et contre les violences faites aux femmes. En Espagne, 1 million de Catalans descendent dans la rue pour protester contre les peines de prison infligées à 5 indépendantistes catalans. En Algérie, alors que les manifestations de ces derniers mois ont progressivement diminué, le 1er novembre a connu une mobilisation massive pour reporter l'élection présidentielle du 12 décembre, élection contrôlée par le pouvoir. En Guinée, alors que le président Alpha Condé entend modifier la Constitution pour être candidat à un troisième mandat, des manifestations s'y opposent et sont durement réprimées, une dizaine de morts. Mais ces manifestations perdurent sous le slogan « ça ne passera pas ». En Croatie, importante manifestation de femmes après la libération de trois hommes ayant violé une jeune fille durant un an. Au Soudan, c'était en début d'année, des manifestations pour l'amélioration des conditions de travail et des salaires s'étendent à des exigences de transformation démocratique. Au Pakistan, depuis la fin octobre, protestations massives contre la hausse du coût de la vie auxquelles se greffent des revendications islamistes récusant la légitimité des dernières élections. En Irak, depuis octobre, un mouvement pour le prix des carburants dénonce également le système politique mis en place par les Américains, la corruption et l'absence de services sociaux. Il faut également évoquer le Chili, le Liban, Hong Kong, etc. Le journal Le 1 complète ce panorama en évoquant les marches mondiales pour le climat. Par exemple, le 27 septembre, les villes suivantes se sont mobilisées. Montréal, plus de 500 000 participantes et participants. Toronto, New York, San Francisco, Sydney, Melbourne, Wellington, Paris, Londres, Berlin, Milan, Madrid, Bangkok, Kampala. Alors évidemment, la France n'échappe pas à ce mouvement, à ces soulèvements. On peut bien sûr évoquer les Gilets jaunes, dont le mouvement a débuté il y a un an, le 17 novembre 2018, avec des revendications symptomatiques. Au départ, il s'agit de la hausse du prix du carburant. Mais très vite sont apparus le rejet de la désindexation des retraites et l'exigence d'une hausse des bas revenus. Et enfin, une forte demande de démocratie directe. La colère sociale, amorcée par les Gilets jaunes, s'est ensuite amplifiée, par exemple autour de la question des retraites, avec une grève particulièrement massive à la RATP, puis à la SNCF, avec la perspective d'une grosse manifestation le 5 décembre, journée qui se profile comme étant un moment fort de la mobilisation sociale. Alors dans la presse locale, cette semaine, on est largement revenu sur la belle mobilisation dans le secteur de la santé, et notamment les hôpitaux. Par exemple, dans la Voix du Nord, avec ce titre « Plan hôpital, une bouffée d'oxygène insuffisante pour les syndicats ». Et en chapeau, le Premier ministre et la ministre de la Santé ont dévoilé hier un troisième plan pour sauver l'hôpital public, 1,5 milliard d'euros injectés sur 3 ans, une partie de la dette reprise. Les chiffres donnent le tournis, mais ils sont loin de satisfaire les syndicats qui maintiennent la mobilisation. Fin de citation. Alors évidemment, le plan évoqué ici est annoncé après 9 mois de grève. Pas sûr effectivement que les personnels s'en contentent. La reprise de la dette, par exemple, est une reprise partielle et est en fait un transfert. Les primes annoncées ne compensent pas la faiblesse des salaires et la rallonge de 1,5 milliard d'euros sur les 3 ans à venir ne permet pas de régler l'insuffisance des effectifs et des investissements. La situation ne devrait donc pas notablement s'améliorer. Actualité locale, SNCF. Les usagers de la gare de Bully-Grenay pétitionnent et dénoncent la suppression de la ligne directe entre Bully-Grenay et Lille. Alors ils ont mis en œuvre, ces usagers, une pétition. Je vais me permettre de vous la lire. Ça résume assez bien les préoccupations des usagers de la SNCF sur le territoire du bassin minier. Nous, usagers de la SNCF, de la gare SNCF de Bully-Grenay, dénonçons la suppression de la ligne directe de Bully-Grenay à Lille via Lens dans la grille horaire SNCF applicable à partir du 15 décembre 2019. Cette décision a pour conséquence directe, premièrement, la limitation à 2 trains par heure au départ de Bully-Grenay entre 6h et 8h, plage horaire pour accéder à Lille via Lens aux heures contraintes de bureau. Deuxièmement, la suppression des quelques trains directs qui mettent Lens à moins de 30 minutes de Lille. Actuellement, il y en a 3 par jour au départ de Lens et 1 au départ de Lille. Troisième conséquence, l'augmentation, par le temps de la correspondance en gare de Lens, de la durée de trajet journalier de minimum 40 minutes pour les personnes amenées à se déplacer pour le travail tous les jours à Lille. environ 2h20 de trajet aller-retour Bully-Grenay-Lille au lieu de 1h40 aujourd'hui, et cela sans considérer les très nombreux aléas de trajet pour tous les usagers des TER. L'incitation, quatrième conséquence, l'incitation donc à recourir à la voiture personnelle pour rejoindre la gare de Lens, voire la ville de Lille, alors que les politiques publiques devraient aujourd'hui favoriser les déplacements en transport en commun. A noter à ce sujet que le trajet Bully-Lens en bus prend plus de 30 minutes au mieux et que le parking de la gare de Lens est payant. La gare de Bully-Grenay, qui dessert une population de 30 à 40 000 habitants, serait-elle considérée comme une petite gare dans la nouvelle politique régionale de la SNCF ? Conclut cette pétition. Nous demandons une révision de la grille horaire en concertation avec les usagers concernés. Donc voilà quelques arguments pour soutenir un petit peu cette mobilisation des usagers de la ligne Bully-Grenay-Lille. Cette pétition peut être signée en ligne sur le site change.org. Alors on voudrait signaler que la gare de Bully-Grenay n'est pas la seule concernée. Et typiquement, la Voix du Nord évoque, en titre, dès le 15 décembre, la ligne Lens-Lille ne desservira plus l'arrêt Coron de Méricourt. Explication du journal. À partir du 15 décembre, la ligne TER Lens-Lille ne desservira plus l'arrêt Coron de Méricourt. Pour tenter de faire changer cette décision, un courrier a été envoyé à Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Des signatures de pétition sont aussi lancées. Le journal poursuit. Une pétition rédigée par le collectif des usagers des transports publics de Méricourt pourra également être signée par tous dans divers lieux publics de la commune, mairie, centre social, CCAS, pour faire valoir le droit à une mobilité écologique. Cette pétition sera envoyée à Xavier Bertrand et peut-être à la SNCF. On fera un premier envoi la semaine prochaine, commente-t-on du côté de la mairie. Voilà donc, mobilisation pour défendre le service public Transport SNCF dans le bassin minier. Alors une nouvelle qui est en ligne sur le site de la Voix du Nord et qui devrait paraître assez vite dans les journaux papier, ça concerne une affaire dont on vous a déjà parlé à Micro Rebelle. C'est la lutte contre les compteurs Linky et notamment la lutte qu'a menée en justice, au tribunal, une octogénaire à Madame Morel qui attaquait Enedis concernant le dysfonctionnement de son compteur Linky. Alors bonne nouvelle, hein, nous indique la Voix du Nord avec ce titre. Surfacturation et compteur Linky, première victoire pour une habitante d'Arras. Commentaire du journal. Ce matin, le tribunal d'instance d'Arras a donné raison à une octogénaire qui attaquait Enedis suite à un dysfonctionnement de son compteur Linky. Elle a l'œil qui frise et le sourire satisfait, Gilberte Morel. À 85 ans, cette habitante d'Arras vient d'emporter une première manche judiciaire dans son combat contre Enedis. La juge est venue à sa rencontre et lui a glissé un « c'est bon pour vous », rendant le sourire à cette petite dame qui reconnaît pas mal de nuits d'insomnie. D'une voix fluette, elle raconte son bras de fer. « Ils ont monté le compteur Linky chez moi en février 2017. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une première facture. Ma consommation était multipliée par 8. Avec le temps, ces factures passent de 100 euros annuels à 400 euros en moyenne. Chez EDF, ils m'ont dit que c'était parce que j'avais trafiqué l'ancien compteur. Le coup de grâce pour Madame Morel qui en fulmine encore. Maître Christophe Lounis, celui qui deviendra son avocat, commente sobrement. Il s'agit d'une vieille personne qui n'a pas du tout supporté qu'on mette en cause son honnêteté. L'octogénaire prend sa plume, téléphone et entame sans le savoir une bataille qui va la mener en justice. Gilberte Morel persiste. Elle verse la même mensualité qu'avec l'ancien compteur, refuse de payer le reste. En septembre 2018, l'électricité est coupée. Elle ne sera rétablie qu'en novembre de la même année, période hivernale aidant. De fil en aiguille, elle rencontre Pierre Rose, membre d'ACAD, un des nombreux collectifs anti-Linky qui essaiment la région. Gilberte Morel porte l'affaire devant le tribunal d'instance d'Arras. Hier, ce même tribunal lui a donné raison, arguant que, selon l'ancien compteur, la consommation de Madame Morel était en moyenne de 6 kWh par mois. D'après le compteur Linky, elle était de 275 kWh par mois. L'ancien militant de droit au logement embraye. Tout ce qui concerne les compteurs Linky nous intéresse. Les surfacturations, les dégâts occasionnés dans les habitations, l'électrosensibilité. Il y a 5 ou 6 comités comme le nôtre, dans la métropole linoise, un en Flandre, un à Dunkerque, un autre à Hesdin, un à Avion, et un autre qui se trouve aussi dans le secteur minier. Des comités qui, forcément, vont se réjouir de la victoire de Gilberte Morel. Une information qui nous vient directement de la part du collectif Fraternité Rome, Bassin Minier 62. Il s'agit d'une collecte fraternelle intitulée « Bébé au sec et le ventre plein » pour l'hiver 2019-2020. Voilà un peu ce qu'évoque ce communiqué et cette initiative collecte fraternelle. Pour que les familles roms n'aient pas à se coucher dans des literies mouillées de la nuit précédente, faute de couches pour les jeunes enfants. Il faut savoir que dans une caravane ou dans un squat, on dort souvent à plusieurs sur un même lit. Pour que les parents aient le minimum pour nourrir leur famille, nous vous proposons de participer à la collecte organisée pour procurer aux familles roms des produits d'hygiène, notamment des couches ainsi que du lait maternisé. Chaque euro collecté est important, alors n'hésitez pas à apporter votre contribution. Vous pouvez l'envoyer à Collectif Fraternité Rome, au LAG, 23 avenue Jean Jaurès, 62 800 Liévin. Les chèques sont à éditer à l'ordre du collectif Fraternité Rome en indiquant « bébé au sec au dos ». Voilà une initiative que nous relayons bien volontiers. Eh bien, je vais sans tarder passer le micro à Aurélie pour sa chronique presse également.
Dans Politis, un article sur le voile a attiré mon attention. Je sais d'avance ce que vous allez dire. Encore n'en ai-je pas assez de parler du voile ce mois-ci. Chers auditeurs et chères auditrices, sachez qu'il n'y a jamais assez de jours dans la semaine et d'heures dans la journée pour essayer de comprendre les plus grandes polémiques, bien qu'elles soient, du moins à mes yeux, assez vides de sens. J'ai beaucoup réfléchi depuis ma dernière intervention à ce sujet, j'en ai aussi beaucoup parlé autour de moi. Un fait est ressurgi parmi tout ce que j'ai pu entendre. En soi, le voile est un bout de tissu, jusque-là, ça reste cohérent. Mais ce qui est gênant dans ce bout de tissu, aussi insignifiant soit-il, c'est la visibilité de l'islam dans l'espace public. Il est vrai que de nos jours, la religion la plus présente en France est sans contexte l'islam. Par sa visibilité, par son nombre de croyants, le christianisme a décliné d'une manière significative ces dernières décennies et même avant. Nous sommes quand même loin du temps où l'Église était très importante dans la vie de tous. Or, l'islam n'est pas encore à ce déclin qui, à mon sens, touche toutes les religions. On remarque en France, du moins, une certaine hostilité au voile. Que dis-je ? Une énorme hostilité au voile. L'article rappelle qu'au départ, on utilisait la notion de laïcité pour justifier le non-port du voile dans les espaces éducatifs comme l'école, par exemple. Or, aujourd'hui, cette laïcité s'est développée et touche tous les espaces publics. Il y a une volonté, en somme, d'effacer la présence de l'islam, de faire comme si elle n'existait pas. Et clairement, c'est un échec cuisant. La génération qui porte le voile aujourd'hui est peu encline à obéir à des ordres de la République, comme elle le faisait à l'époque de la migration intensive. Parce que, rappelons-le, ces mêmes musulmans sont français. Ils sont nés en France et ne portent pas la même honte que celle de leurs ancêtres qui venaient d'arriver sur le territoire. Puis, on ne va pas se le cacher, chers auditeurs, relancer le débat sur le voile est aussi une manière d'éviter d'alimenter l'autre débat, celui des retraites et plein d'autres. Ressasser chez les Français l'idée qu'il y a des intrus sur le territoire qui pourraient les menacer potentiellement, eux, bons Français, l'idée qu'il y a des... C'est une manière d'éviter de dire qu'au final, nous sommes tous et toutes concernés par les réformes sur la retraite, sur le travail, etc., que l'on porte le voile ou non. Nous sommes peut-être tous à chacun différents sur la forme, mais sur le fond, nous sommes tous sur un pied d'égalité.
Quintal. Hoje vai ter chuva de levar quintal. Isto é coisa de cinema. Vai ter chuva de levar quintal. Hoje vai ter chuva de levar. Tira a roupa do varal, tá quente, tá esquisito. Hoje vai ter chuva de levar quintal. Hoje vai ter chuva de levar quintal. Coisa de cinema. Isto é coisa de. Isto é coisa de.
C'était Pipo Pagoraro d'un morceau intitulé Varal. Je vous l'avais annoncé, hein, chronique à deux coups. Une fois c'est une chronique coup de cœur, une fois c'est une chronique coup de gueule. C'est donc la chronique de Olivier. Chronique à deux coups. C'est un coup de cœur à Daniel Cueff, maire de Langouette. Il s'appelle Daniel Cueff, il est le maire de Langouette dans le département de l'Ille-et-Vilaine. C'est bien lui le premier maire à avoir pris un arrêté anti-pesticide sur sa commune. Brandissant un bidon de pesticides lors de l'audience au tribunal, le maire avait alors tenté de convaincre le tribunal de la nécessité de son arrêté. Daniel Cueff avait déclaré « Sur ce bidon de produit qui a été utilisé à Langouette, les précautions indiquent que l'agriculteur ne doit pas retourner dans son champ pendant 48 heures après la pulvérisation. Je fais quoi, moi, pendant ce temps-là? J'évacue toute ma population pendant 48 heures pour la protéger? Je n'accuse pas les agriculteurs. J'accuse les produits. » Et pourtant, ce vendredi 25 octobre 2019, l'arrêté anti-pesticide de Daniel Cueff a été annulé par le tribunal administratif de Rennes. Le 18 mai dernier, le maire avait pris un arrêté interdisant l'utilisation de pesticides à moins de 150 mètres des habitations. La préfecture avait saisi la justice au motif que la réglementation sur cette question relève de la compétence de l'État et non du maire. Le tribunal administratif de Rennes a suivi l'avis de la préfecture en retenant qu'un maire n'a pas le pouvoir de prendre un arrêté en matière de réglementation des pesticides. En août dernier, déjà le tribunal administratif avait suspendu l'arrêté. Mais aujourd'hui, grâce à ce maire courage, on peut dire que les choses bougent et commencent à s'accélérer.
Depuis l'arrêté municipal pris par le maire de Langouette, une centaine de maires ont pris des arrêtés similaires. Tous ont été suspendus par la justice, et pourtant, vendredi dernier, il y a juste une semaine, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de suspension de deux arrêtés anti-pesticides pris par les mairies de Gennevilliers et Sceaux au nom du danger grave pour les populations exposées à ces produits. C'est une excellente nouvelle, sauf pour les laboratoires et les lobbies, bien sûr. Nous pouvons donc tous nous en réjouir. Patrice Leclerc, le maire de Gennevilliers, s'est exprimé auprès de l'AFP. C'est un encouragement pour celles et ceux qui luttent pour la santé, des agriculteurs et des populations, ajoutant cependant que le combat n'est pas fini. Se réjouissant de cette décision, Florence Presson, adjointe au maire de Sceaux, a estimé que cette décision permet de faire jurisprudence. Cela veut dire que toutes les villes qui ont pris ces arrêtés vont en bénéficier. Excellente nouvelle. L'arrêté de Daniel Cueff, notre maire breton, est en train de faire des petits et lance le débat sur l'usage des pesticides près des habitations. Selon l'association Raxter, qui épaule les communes, 104 d'entre elles ont pris des arrêtés similaires. Affaire à suivre. À noter également, et en guise de conclusion, il y a 10 ans en France, la réduction d'utilisation des pesticides a été laissée au bon vouloir des agriculteurs conventionnels. Les contribuables ont financé à hauteur de 360 millions d'euros un plan Ecophyto pour faire de la pédagogie. L'objectif d'Ecophyto était de réduire les pesticides de 50% en 10 ans. Bien au contraire, en 2018, l'utilisation de pesticides a augmenté de 15 à 20%. En France, l'incidence des cancers ne cesse d'augmenter. Il y a plus de 1000 nouveaux cas de cancer par jour. Le danger inhalation des pesticides est bien caractérisé. La MSA, Sécurité sociale agricole, rembourse en maladies professionnelles, cancer, Parkinson, les maires de certaines communes. Merci.
Nous continuons ce micro-rebelle hebdo sur microrebelle.fr et en rediffusion sur Radio PFM 99.9 et Radio Plus 104.3 par un reportage concernant la grève des pompiers. Il y a beaucoup de mouvements sociaux sur le territoire, en région. Et Microbelle a pris contact avec un pompier en grève sur la métropole européenne de Lille. C'est un reportage de Luc.
Est-ce que tu peux nous dire quand et comment la grève a débuté ?
Donc en fait, ça a commencé le 26 juin dernier. Donc la grève a été reportée jusqu'au 14 janvier suite à une politique d'austérité, notamment budgétaire, qui dure depuis une quinzaine d'années, où on ressent donc on a différentes revendications. On en parlera certainement après, mais c'est principalement pour des raisons budgétaires et d'effectifs. D'abord, on a essayé d'avoir un entretien avec nos politiques, nos élus, afin d'exposer les problèmes auxquels on est rencontrés. Seulement, on s'aperçoit que le dialogue est très compliqué, et du coup, on n'a pas eu d'autre choix que d'utiliser nos véhicules afin de faire part à la population de nos revendications.
Et cette population, elle vous soutient ?
On a l'avantage d'être très bien soutenu par la population, contrairement à la police, etc. Donc c'est une force pour nous. Après, je pense que c'est un peu légitime. C'est eux qui paient les impôts. Donc c'est le contribuable. Le contribuable a le droit de donner son avis sur le service public auquel ils peuvent bénéficier.
Alors tu as brièvement évoqué les motivations de la grève, les raisons. Tu as parlé de l'austérité budgétaire qui touche tous les services publics. Vous subissez, vous, une baisse de moyens dans les casernes ?
Là, je parle plutôt à l'échelle nationale parce que c'est vrai dans le SDIS du Nord, mais également dans d'autres SDIS. Il faut savoir qu'en France, on est environ 250 000 sapeurs-pompiers, avec 190 000 sapeurs-pompiers volontaires et environ 40 000 sapeurs-pompiers professionnels. Pour un nombre d'interventions qui est actuellement de 4,6 millions d'interventions par an, sachant qu'on a subi une augmentation d'1 million d'interventions sur 10 ans. Et le nombre de sapeurs-pompiers professionnels n'a pas augmenté et aurait plutôt tendance à diminuer. Donc cette situation est plutôt paradoxale.
Et alors comment ça se traduit concrètement, toi, dans ta caserne, et comment vous le ressentez dans les conditions de travail au quotidien?
Alors, moi, je fais partie d'une grosse caserne sur la métropole lilloise. Il faut savoir qu'il y a quelques années, c'était une caserne qui était tenue uniquement par des sapeurs-pompiers professionnels. Aujourd'hui, on nous a mis des sapeurs-pompiers volontaires pour compléter la garde. Donc, on est incapable d'avoir le nombre de pompiers professionnels et on nous fait doubler dans chaque engin. Donc, c'est-à-dire que le matin, on arrive. Avant, on était affecté à un seul engin. Aujourd'hui, on peut doubler la deuxième ambulance avec le deuxième fourgon, la troisième ambulance avec le deuxième fourgon. On prend un compresseur, on prend une échelle. En gros, on prend le premier départ. Tant qu'il y a un pompier dans la caserne, on le fait monter à n'importe quel engin. Et après, s'il n'y a plus suffisamment de personnel, c'est la caserne la plus proche qui vient pallier. Seulement, maintenant, on arrive à un moment où le flux, le nombre d'interventions est tellement important, on est dans l'incapacité presque de répondre aux interventions, sachant qu'en plus de ça, il y a d'autres services publics qui sont à flux tendu. Du coup, là, un petit exemple avec les hôpitaux. Nous, on prend un ticket quand on arrive à l'hôpital, on attend à côté du citoyen lambda, alors que normalement, on a des missions qui sont des missions d'urgence vitale, où normalement, on devrait pouvoir être pris en charge rapidement. Donc, il faut bien comprendre que le temps où on est dans l'hôpital, on n'est pas disponible pour la population. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut raisonner de façon avec différents corps de métier, que ce soit la fonction publique hospitalière ou la fonction publique territoriale. Il faut vraiment une convergence des luttes pour remédier à tous ces problèmes.
Cette austérité qui vous touche, elle touche aussi les services d'urgence qui sont en grève depuis le printemps. Et en fait, la baisse de moyens dans les services d'urgence vous impacte dans votre travail parce que c'est les pompiers qui pallient à la défection en fait, de l'hôpital.
C'est ça, tout à fait. Puis je pense même que l'État a une responsabilité parce qu'il y a une partie des citoyens qui sont... qui ont leurs conditions de vie qui se dégradent, de la pauvreté. Et je pense que tout ça, ça engendre aussi une augmentation du nombre d'interventions chez les sapeurs-pompiers. Il y a quand même un lien entre le bien-être des citoyens et le nombre d'interventions des pompiers. Quand les gens habitent dans un logement correct, etc., il y a moins de raisons qu'il y ait des incendies ou moins de problèmes d'insalubrité ou de... Nous, on fait des interventions pour des ascenseurs bloqués, pour des fuites d'eau, pour d'autres raisons que du secours à personne également. Donc, plus les conditions de vie des citoyens se dégradent, plus les sapeurs-pompiers sont sollicités et, entre guillemets, on est la dernière roue du carrosse. Quand on ne sait pas comment répondre à un problème, souvent, on appelle les pompiers.
Est-ce que les retraites font aussi partie des raisons de la grève, étant donné que vous avez un régime particulier, qu'on parle de les supprimer, ça fait partie aussi de vos revendications?
Oui, alors, effectivement, alors on avait dans les revendications les retraites, où là, effectivement, pour l'instant, nous, on a un régime particulier. Alors, si on passe dans le régime commun, ça manque de transparence, on ne sait pas du tout où on est, sachant qu'en ce moment, toutes les réformes qui ont été faites, ça n'a jamais été favorable à notre pouvoir d'achat ou à nos conditions de travail. Donc là, c'est en stand-by jusqu'aux élections municipales. Et c'est le seul moment où on est à peu près écouté pour trouver un terrain d'entente avec les pouvoirs publics.
J'aimerais maintenant qu'on parle un peu des moyens de faire grève pour les sapeurs-pompiers. Est-ce qu'on peut réellement parler de grève, étant donné qu'il y a des astreintes? J'imagine que c'est pas possible pour un pompier de faire grève sur son temps de travail. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça, de la manière dont vous essayez d'obtenir un rapport de force?
Là, il faut savoir qu'actuellement, c'est l'intersyndicale. Donc, nous, on est soumis à un OMS, donc c'est un ordre de maintien de service. Donc, c'est tout à fait logique, hein, il faut pouvoir répondre aux interventions pour la population. Donc, tous les jours, il y a un tableau qui est sorti avec le personnel qui est obligé d'être présent à la caserne pour répondre aux interventions quotidiennes. Alors, néanmoins, on répond toujours à l'OMS, sinon on est soumis à des sanctions disciplinaires. Mais là, de toute façon, tous les sapeurs-pompiers sont d'accord pour l'OMS, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. on est toujours dans le désir de servir la population. Néanmoins, on avait écrit sur les engins pour communiquer avec la population, expliquer les problèmes rencontrés. Et là, on a été justement mis en justice par le SDIS pour les calicots qui ont été mis sur les engins et notre mode de communication, entre guillemets, quoi.
Le service départemental d'incendie et de secours qui a porté plainte pour les camions tagués, tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Pour eux, c'était anxiogène pour la population, etc. Nous, le but, c'était vraiment de prévenir la population de l'austérité que rencontrent les services publics. Ça fait une quinzaine d'années où on dit que les services publics coûtent trop cher, servent à rien, etc. Effectivement, tant qu'on n'en a pas besoin, on peut penser ça. Maintenant, aujourd'hui, on est à flux tendu. Les citoyens eux-mêmes se rendent compte qu'on a besoin du service public, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit les pompiers, la police. On est obligé d'une convergence des luttes.
Et alors, qu'est-ce qu'a donné cette plainte ?
Là, c'est passé au tribunal sur l'île. Donc, l'intersyndicale a eu gain de cause. Donc, on peut maintenir les inscriptions sur les camions, notamment en grève, pour avertir la population. Après, il faut savoir qu'il y a des tracts qui ont été donnés à la population. Il y a également une journée, le jeudi 14 novembre, place de la République à Lille, où pendant 24 heures, il y a eu un piquet de grève, où on a notamment communiqué avec la population sur les problèmes qui ont été rencontrés. Pour l'instant, on a le droit de continuer à communiquer via les engins de secours.
De leur côté, je reste dans la thématique juridique, de leur côté, les pompiers du Nord ont également porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, et notamment pour mettre en avant la surmortalité chez les pompiers, donc montrer qu'effectivement c'est bien un métier à risque. Je pense que chaque pompier le sait lorsqu'il s'engage, mais au moins pour que soient pris en compte ces risques et qu'ils soient valorisés.
Alors officiellement, on n'est pas reconnu comme métier à risque, alors sauf quand on fait un crédit pour notre logement, etc., où là on a effectivement une surcotisation parce qu'ils considèrent qu'on a un métier à risque, mais d'un point de vue purement professionnel, on n'est pas considéré comme un métier à risque. Alors maintenant, le problème qui est rencontré, c'est qu'on a des nouvelles connaissances sur la toxicité des fumées, etc., qui nous viennent notamment du Canada. Et on a des études qui nous montrent comme quoi on a plus de cancers que la population en règle générale. Seulement, il y a très peu de moyens qui sont mis en place par le SDIS pour nous protéger ou pour faire le nécessaire sur la dangerosité des fumées. Et même quand un collègue est confronté à la maladie, un cancer notamment, c'est toujours compliqué de faire reconnaître son cancer comme maladie professionnelle. Donc c'est toujours un combat pour faire reconnaître ce genre de pathologie. Et on souhaiterait que ça soit écrit noir sur blanc et qu'on nous mette à disposition davantage de tenues de feu, d'équipements de protection individuelle, et mettre de nouveaux protocoles en place, et des choses qui coûtent pas forcément très cher. C'est ça qui est incroyable, c'est que des fois on nous mettrait juste à disposition de quoi nous rincer, de quoi se laver les mains avec de l'eau et du savon. Des fois ça peut suffire à la majorité de la décontamination.
Et là-dessus, quelle a été la réponse du SDIS ?
Bah justement, alors là pour l'instant c'est toujours des études avec des médecins, etc. Alors que on pourrait peut-être profiter des résultats qui ont été faits dans d'autres pays pour aller beaucoup plus vite. Donc c'est toujours une latence avec les autorités.
Je reviens maintenant sur la grève et plus précisément sur la dernière manifestation qui a mobilisé les pompiers. Où vous en êtes par rapport à justement l'idée d'organiser des manifestations ? Est-ce qu'il va y avoir un acte 2 ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir une convergence ?
Tout à fait. Alors, on a été reçu une première fois, enfin, l'intersyndicale a été reçue par le ministre, qui a bien, enfin, ils ont toujours connaissance des soucis qu'on rencontre. Seulement, il n'y a pas eu d'éclaircissement sur tous les points qu'on a mentionnés préalablement. Donc, effectivement, pour l'instant, il y aura certainement un acte 2 et tous les syndicats appellent à se joindre à la manifestation du 5 décembre. Donc il y aura effectivement un acte 2 et on attend une réponse du gouvernement sur tous les points qu'on a cités, donc notamment les budgets, les effectifs, le métier à risque, on a souligné la question tout à l'heure, plus de transparence sur la réforme des retraites également sur la dangerosité des fumées, on souhaiterait que le dossier avance.
Tu évoques la stratégie du gouvernement qui est plutôt de repousser jusqu'à présent la satisfaction des revendications des pompiers. Il y a également les élections municipales qui approchent, qui seront en début 2020. Quelle est votre stratégie par rapport à ça ?
Justement, je pense qu'il ne faut pas mettre notre grève, le mouvement de grève a commencé le 26 juin. On se doutait que ça allait être une grève qui allait durer dans le temps, donc il ne faut pas mettre toutes nos forces d'un coup. Et c'est un peu un marathon jusqu'aux élections municipales. Donc, je pense qu'on doit profiter des élections municipales pour être écouté, pour être entendu, et on espère que ça nous permettra d'obtenir gain de cause sur différents dossiers et dans l'intérêt de la population également. Hein.
Est-ce que la grève chez les pompiers, comme corporation, si on peut dire, fait l'unanimité ou est-ce que c'est la majorité des pompiers qui est mobilisée comment ça se passe chez vous en interne ?
Là, actuellement, en interne, effectivement, le mouvement est soutenu largement par la majorité. Hein. Je dis, c'est vraiment une intersyndicale. Donc, chez les pompiers, c'est pas forcément simple d'avoir l'intersyndicale parce que forcément, il y a des avis qui divergent. Mais là, pour une fois, on a vraiment une convergence des luttes parce que tout le monde se rend compte qu'à force de tirer sur les ficelles, il y a un moment, c'est plus supportable. Donc, là, on a la chance d'avoir la cohésion de l'ensemble du personnel, même du personnel administratif. Hein. On oublie souvent le personnel administratif, mais eux aussi, ils ont de plus en plus de contraintes. Les moyens matériels sont aussi réduits, hein, faut dire ce qui est. Le parc de véhicules est vieillissant. Les casernes, il y a certaines casernes qui sont dans un état vraiment, c'est limite. Et après, par exemple, on peut reparler même du CHSCT. Hein. Nous, on a un avis consultatif. Donc, ça veut dire qu'on participe au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Mais c'est un simple avis. Donc, on n'a pas un gros pouvoir sur nos conditions de travail réellement. Quoi. Ça, on n'en a pas parlé. C'est l'inégalité dans le service public. On sent que la politique, elle a plutôt envie de faire à la méritocratie. On n'augmente pas les pompiers, mais ceux qui sont dans un secteur particulier, vous aurez une petite prime de temps en temps. Il y a ces problèmes-là. Après, il y a aussi la précarité. Avant, tu passais le concours de la fonction publique. Maintenant, il y a des mecs qui sont embauchés sur des contrats aidés ou des contrats à durée déterminée. Et les mecs, ils sont pas payés. Ils prennent que de l'ambulance. Ils n'ont pas de prime de feu. En gros, ils font le travail ingrat chez les pompiers parce que chez nous, entre guillemets, l'ambulance, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et en plus de ça, c'est là où tu passes le plus de temps en intervention. Donc, t'es quand même sollicité davantage à l'ambulance que dans les fourgons. Et en plus de ça, ils sont payés 1 000 euros par mois. Quoi. Donc, ça fait des écarts de salaire. Ça, déjà, c'est de la précarité parce qu'ils sont pas dans la mesure de faire un crédit pour un logement, etc. Et en plus de ça, la rémunération, elle a chuté pour ces gens-là. Quoi.
C'était donc un reportage de Luc hein, sur la grève des pompiers, avec interview de ce pompier de la métropole européenne de Lille. Ce micro-rebel hebdo se termine. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. N'hésitez pas à nous contacter hein, pour nous suggérer des idées d'émissions, de reportages ou même participer à nos émissions. Les portes de nos studios sont toujours grandes ouvertes. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau micro-rebel hebdo. Et sinon, sur microrebel.fr, n'hésitez pas à consulter, à écouter nos podcasts, nos téléchargements d'émissions toute la semaine, tous les jours. On termine toujours avec Pippo Pegoraro. À la semaine prochaine. Bye bye.